Philippe Charlier, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la différence entre le zombie haïtien et le zombie hollywoodien?
Alors, le zombie hollywoodien, il est complètement fantasmé, il est complètement cinématographique et il correspond pas du tout à un schéma anthropologique. Le vrai zombie, c'est le zombie haïtien, c'est-à-dire quelqu'un qui a subi un enterrement symbolique. Il était totalement vivant et conscient quand il a vécu ses funérailles. Il a fait l'objet d'un jugement par des sociétés secrètes qui ont décidé de le punir parce qu'il faisait du mal à la société. Comme la justice des humains, la justice classique dans les tribunaux était trop lente, eh bien ils ont décidé de lui infliger une peine qui est pire que la mort, c'est de devenir un zombie, c'est-à-dire de perdre complètement son libre arbitre. C'est un corps sans esprit.
Alors disons-le, c'est une pratique illégale, hein, en dehors de la loi.
C'est évidemment une pratique illégale, mais c'est pourtant une pratique qui n'est pas rare en Haïti. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quasiment nulle part ailleurs à la surface du globe, sauf en Haïti. C'est puni d'ailleurs d'une peine d'emprisonnement, c'est considéré comme l'équivalent d'un véritable empoisonnement d'après le code pénal haïtien.
Mais en attendant, on va voir ces sociétés secrètes quand on a un problème.
On va les voir quand on a un problème, principalement quand quelqu'un pose problème. Un violeur, un voleur, un captateur d'héritage, un meurtrier, un assassin. Ça, c'est dans la procédure, on va dire, classique. Mais vous pouvez aussi recruter un membre de ces sociétés secrètes, un bocor, quand vous avez un différend avec quelqu'un de privé. Par exemple, une belle-mère peut empoisonner son gendre. C'est encore plus illégal. C'est-à-dire que c'est vraiment une déviance de cette règle cachée appartenant à ces sociétés secrètes, classiquement les cochons gris, Chantuel ou Bisango. Ce sont des noms, mais il y a probablement d'autres sociétés secrètes qui pratiquent également ce type de sévices corporels.
Est-ce que les victimes savent qu'elles sont condamnées?
Normalement, elles sont prévenues quand elles sont convoquées devant une sorte de tribunal ou de société secrète. En revanche, quand il s'agit d'un différend civil, on va dire, entre deux personnes, comme cette belle-mère qui avait empoisonné un collègue gynécologue haïtien, eh bien là, la personne n'a absolument pas été prévenue. Et chaque jour, quand il écrivait des ordonnances sur son bureau, à travers la peau de ses avant-bras, pénétrait le poison qui a fini par quasiment le tuer.
Le poison qui était sur le bureau, en fait.
Le poison était une sorte de petite poudre blanche répandue sur le bureau. Alors c'est plus compliqué que ça parce que cette poudre-là et cette substance ne pénètrent pas à travers la peau. Il faut lui donner une substance urticariante en plus, quelque chose qui provoque un grattage et en se grattant, on fait pénétrer la peau, la substance à travers la peau. Mais tous les jours, en fait, bah, ces petites impuretés qu'il y avait sur ses accoudoirs de chaise ou sur le bureau ou autre chose, c'était le poison que sa belle-mère avait délicatement déposé pour empoisonner son gendre.
Alors comment ça se passe en fait? On pense que la personne est morte, mais effectivement, comme vous le dites, elle ne l'est pas, elle est juste paralysée par le poison, et donc la personne est enterrée vivante.
Cette drogue s'appelle la tétrodotoxine. Alors, disons-le tout de suite. Pour créer entre guillemets un zombie, faire une zombification, c'est pas juste quelque chose de pharmacologique, c'est pas juste une drogue. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, à commencer par la croyance même de l'individu là-dedans, et puis il y a des cérémonies ou autre chose. Mais néanmoins, un des principes actifs les plus importants, c'est la tétrodotoxine, une substance qu'on appelle un neurotoxique, qui va bloquer pas mal de terminaisons nerveuses, qui va produire en 4 ou 5 heures, voire 6 heures, un état de mort apparente chez la victime. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on a l'impression que la personne est complètement morte, mais en fait, elle respire très légèrement, elle a sa température qui baisse, le cœur se met à battre très lentement et on a vraiment l'impression que tous les signes de mort sont présents, alors que la personne est totalement consciente. Si on lui ouvre les yeux, elle voit, et puis elle continue d'entendre et surtout de comprendre tout ce qui se passe autour d'elle.
Elle est donc enterrée, mais après on vient la chercher pendant la nuit.
Elle est enterrée, comme on dit, ses funérailles sont chantées, elle est mise au cimetière, on évite évidemment de l'embaumer, parce qu'il ne faut pas la faire véritablement mourir, ou que les embaumeurs se rendent compte que le corps n'est pas mort. Et puis, dans la nuit, le sorcier, généralement le bocor, et puis ses aides, qu'on appelle de façon un peu fantasmagorique les loups-garous, viennent éventrer la sépulture, sortir le corps, lui mettre la tête en bas pour faire réaffluer un tout petit peu le sang dans le cerveau, lui flageller un petit peu les membres, parce que vous avez bien compris que la personne n'est pas morte, donc c'est pas la rigidité cadavérique, mais c'est la raideur musculaire, tout simplement, les crampes. Et puis ensuite, on lui donne un antidote, voire plusieurs antidotes, du jus de jusquiame, du concombre zombie, du datura, qui vont inactiver en grande partie la tétrodotoxine dont on a parlé. Et puis surtout, on va changer le prénom de cette personne-là. On va lui donner d'autres drogues qui vont l'empêcher de conserver son libre arbitre. C'est-à-dire qu'on va lui donner des benzodiazépines, des barbituriques, des médicaments qui sont généralement prescrits par des psychiatres, mais là qui vont complètement casser l'individu. Et puis on peut aussi le priver de sel, comme les esclaves du temps passé. Un régime sans sel, chez quelqu'un qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, ben ça va produire un œdème au niveau du cerveau et pas mal de désordres qui vont à nouveau amplifier cette perte du libre arbitre chez l'individu. Ça va être littéralement des esclaves du monde moderne. Ils vont travailler dans des champs de canne à sucre à l'autre bout de l'île ou dans des usines ou, beaucoup plus fréquemment, servir de sorte de garde-malade ou de garde d'enfant chez d'autres bocors ou chez d'autres personnes appartenant à ces sociétés. Donc ils vont disparaître. Ce ne sont plus les mêmes personnes. C'est une peine, comme je disais, qui est pire que la mort.
Et il y a aussi... Après, pour ceux qui arrivent à réchapper à leur sort, un problème, c'est la réintégration dans la société, puisqu'ils sont censés être morts.
Quand certains s'enfuient, ou quand on, pour des raisons X ou Y, quand on arrête de leur donner les psychotropes, ou quand par hasard ils tombent sur du sel, et qu'ils peuvent à nouveau manger du sel, c'est pas en un jour, hein, c'est en plusieurs jours qu'ils peuvent récupérer un semblant de conscience, eh bien ils peuvent être éventuellement reconnus par d'autres membres de leur famille d'origine, et c'est là que se pose en effet le problème. On peut pas faire de certificat de ressuscitation, pour des raisons évidentes, mais on peut éventuellement, et c'est ce que Maître Gentil essaie de développer au barreau de Port-au-Prince, il essaie de mettre en place une sorte d'adoption, tout simplement, sous un nom qui est choisi, par les différentes parties, dans la famille d'origine, qui reconnaît à nouveau cette personne qui avait disparu, qui était considérée comme morte, et qui était en fait bien vivante.
Alors il y a un autre type de zombie, là on parlait du zombie toxique,
oui.
C'est le zombie psychiatrique.
Oui, en fait il y a deux autres types de zombies. Le zombie psychiatrique, ce sont des individus qui sont persuadés qu'ils sont morts. Dans ce fond culturel et religieux du vaudou haïtien, ils sont persuadés qu'ils sont descendus outre-tombe et qu'ils ont dîné, goûté avec Baron Samedi et Dame Brigitte. Alors, évidemment... J'applique un regard médical et scientifique sur des faits qui sont psychiatriques et ces gens-là sont persuadés qu'ils sont morts. C'est pas le fait d'avoir dîné avec les loas, avec les dieux qui est en soi un problème psychiatrique, absolument pas, ça serait une injure à la religion vaudou, ce que je me refuse absolument à faire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils sont morts. Il y a un syndrome en psychiatrie qui s'appelle le syndrome de Cotard. Ce sont des gens qui sont persuadés qu'une partie de leur propre corps est mort. Que leur bras est nécrosé, que leur jambe est à l'état d'ossement. Et là, on est dans une forme vraiment extrême de cette maladie où ils sont persuadés qu'ils sont totalement morts. Et donc, du coup, leur place, c'est où ? C'est dans un cercueil où bien ils sont persuadés qu'ils sont morts et qu'ensuite, ils sont ressuscités. Donc, c'est pas une croyance religieuse, absolument pas. Ça, la religion n'est pas un cas psychiatrique. Non, ces gens-là sont persuadés qu'ils sont morts et qu'ils appartiennent à l'autre monde et qu'ils reviennent hanter les vivants.
Alors vous avez rencontré une patiente de l'hôpital psychiatrique de Port-au-Prince, que lui est-il arrivé ?
Alors elle a vraisemblablement été empoisonnée par la drogue des zombies, par la tétrodotoxine et d'autres substances, peut-être par son mari. En fait, elle a disparu pendant un assez long temps, une dizaine d'années, et puis elle a été revue par hasard par sa sœur, qui est religieuse, errant comme ça dans les rues. Tout simplement, elle avait été zombifiée, elle avait été gardée en détention, et puis un jour, lors du grand tremblement de terre récent, il y a eu l'effondrement de la maison dans laquelle elle était, et son maître est mort, et également les gens qui lui donnaient des drogues. Du coup, l'effet des substances s'est appauvri au fur et à mesure, elle a pu recouvrer une partie de sa conscience, et là, elle a été récupérée par sa sœur. Malheureusement, les lésions psychiatriques sont tellement importantes qu'il a été difficile pour elle de récupérer toutes ses fonctions cérébrales, intellectuelles. Elle est pourtant soignée par un excellent psychiatre, là-bas, au centre de Port-au-Prince. C'est difficile, son expertise est en cours. Le psychiatre essaye de vérifier par la génétique si cet individu est bien celui qu'on croit. Cette femme a été reconnue par ses enfants qui viennent la voir. Son mari refuse d'aller la voir. Et d'autres membres de sa famille, comme sa sœur par exemple, l'ont reconnue de façon assez indubitable. Elle donne des détails parfois sur sa vie privée. Outre ses traits physiques qui sont tout à fait comparables à ceux de cette femme anciennement disparue et qui a été enterrée, l'étape ultérieure serait de réouvrir d'ouvrir le cercueil et de vérifier s'il y a un corps dedans, et si c'est bien un corps, à qui appartient donc cette dépouille. Généralement, quand on ouvre les cercueils des zombies, on se rend compte qu'il n'y a pas de cadavre, mais un tas de cailloux.
Dernier type de zombie, le zombie social.
Le zombie social, c'est celui qui occupe une place laissée vide. C'est un peu comme le retour de Martin Guerre. Lorsque quelqu'un a disparu, malheureusement à cause d'un cyclone, à cause d'un tsunami, à cause d'un tremblement de terre, et Dieu sait malheureusement qu'Haïti a été gravement touché récemment, eh bien il faut remplacer cet homme ou cette femme par quelqu'un d'autre parce qu'il y a vraiment un manque pour la famille. Et dans ce cas-là, il y a une sorte de reconnaissance tacite, de mensonge, si on peut dire, automatiquement digéré, entre la famille et un individu choisi au hasard et qu'on décide de reconnaître comme étant ce zombie. On reconnaît quelqu'un comme étant cette personne disparue et bien on retourne à une nouvelle situation d'équilibre, tout simplement. Donc par tacite acceptation, on reconnaît comme soi-disant mort, enterré, puis sorti de terre, quelqu'un qui en fait est un parfait inconnu et qui va remplir le rôle de ce papa qui est mort et disparu et véritablement enterré et qui lui n'est pas ressorti de tombe, ou de cette maman de la même façon.
Vous dites cette personne, on va jusqu'à lui faire les cicatrices de la personne qui avait disparu.
Oui, ça va très très loin pour ne pas que les autres membres de la famille puissent douter, ou les amis ou autre chose. On va lui inculquer des souvenirs, lui apprendre comme un espion, sa vie, et puis on va même jusqu'à marquer sa peau en lui faisant des cicatrices, par exemple une fausse cicatrice d'appendicectomie, hein, de retrait d'appendice en cas d'appendicite, ce qui peut d'ailleurs poser des petits problèmes sur le plan du diagnostic si jamais il a des problèmes médicaux après.
Pour revenir aux zombies dont on parlait au début, hein, le plus connu, le zombie toxique, voilà, on le voit, il est condamner ce zombie à la mort sociale, hein. Mais dans le même temps, vous en parlez dans votre livre, pendant la dictature des Duvaliers, on disait que les tontons Macoutes comptaient des zombies dans leur rang, donc c'est aussi synonyme de puissance.
C'est la puissance des ténèbres. C'est la puissance surtout, non pas tant des zombies, mais surtout des faiseurs de zombies, les bokors. Vous savez que dans le vaudou haïtien, les prêtres qui font le bien, qui servent les loas avec la main droite uniquement, s'appellent les ungans et les mambo pour les femmes. Ils travaillent dans des péristyles. Je pense que là, je vous apprends rien. En revanche, ceux qui servent, comme on dit, les loas avec les deux mains, la main droite qui fait le bien et la main gauche qui fait le mal, on les appelle classiquement les bokors. Et en fait, les Duvaliers entretenaient ce mythe d'une aide surnaturelle, d'une aide religieuse et surtout magico-religieuse de leur armée et de leur force spéciale par les bokors. C'était une façon d'instiller un tout petit peu la peur en disant non pas on a des zombies dans nos armées, mais surtout nous avons des sorciers, nous avons des puissances ténébreuses et potentiellement maléfiques, mais en tout cas particulièrement agissantes à nos contacts. Donc méfiez-vous, nous pouvons faire le mal partout, il suffit d'un claquement de doigts.
Philippe Charlier, merci.
Merci à vous.